À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne, ancienne diplomate et féministe.
Deuxième épisode, l'apprentissage de la diplomatie. Bonsoir Claudine Monteil.
Bonsoir Caroline Brouet.
Hier, vous nous avez parlé de votre mère, Josiane, de votre père, Jean-Pierre Serre, et de ces réunions de mathématiciens, on a fini par ça, qui vous ont bien aidé ensuite pour votre carrière de diplomate. Mais au fait, vous vouliez être diplomate toute petite déjà ?
Toute petite, je rêvais d'écrire pour communiquer avec le monde, parce que j'entendais parler de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre depuis mon enfance à la maison, et qu'ils tous deux communiquaient avec le monde, luttaient contre les injustices. Et en même temps, je rêvais, parce que j'avais vu des mathématiciens soviétiques à la maison, je rêvais de comprendre ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer.
D'autant que vous aviez déjà une première expérience de l'autre côté, puisqu'à l'époque, il y avait quand même deux grands mondes, deux blocs pendant la guerre froide, le monde soviétique et le monde américain. Et le monde américain, vous avez eu connaissance de ce monde, parce que vous passiez plusieurs étés. Plusieurs années même à Princeton. Racontez-nous.
Non, c'est-à-dire que mon père ayant été élu professeur au Collège de France très jeune, à 29 ans, il pouvait s'absenter 3 mois par an pour aller enseigner et représenter la France à l'étranger. Donc, il a refusé un poste permanent à Princeton, mais il a pris un poste où il allait 3 mois, tous les automnes, nous allions à Princeton jusqu'à ma majorité. Et donc, j'ai été à l'école aux États-Unis, où j'aimais beaucoup Princeton, qui était une petite ville américaine pleine d'intellectuels et de grands scientifiques, mais où j'ai appris aussi ce qu'était le racisme, puisque j'étais dans une classe de l'école publique. Ce n'était pas une école privée.
Et vous avez 11-12 ans, hein ?
J'ai 10 ans, 11 ans, 12
petite
ans.
Petite fille.
Et je suis la seule petite fille blanche qui parle à la petite fille noire, la seule petite fille noire de la classe, qui, elle, va subir un harcèlement quotidien. Et je serai même convoquée chez la directrice de l'école pour être trop proche et trop amie avec cette petite fille noire. Donc, je rentre régulièrement à la maison, à Princeton, en larmes, parce que j'ai assisté à des situations insupportables. Et mes parents m'expliquent ce que c'est que le racisme et ils m'apprennent aussi que certains des grands universitaires scientifiques sont également racistes. Donc, le racisme, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans ma chair enfant et qui m'est donc d'autant plus insupportable.
Donc, revenons à ces premières années 1960 où vous êtes une jeune adolescente et où, forte de cette expérience d'un côté du mur, disons, entre la France et les États-Unis, vous êtes fascinée par l'autre côté, l'envie d'aller voir de l'autre côté. Il y a quand même un événement, je crois, qui a été important, qui a beaucoup compté, en tout cas pour vous. On est en juin 1963, c'est la mission spatiale soviétique que vous avez suivie avec votre mère.
Alors, en 1963, c'est l'année où je commence à apprendre le russe. Je prends comme deuxième langue le russe parce que je souhaite me rendre là-bas pour mieux comprendre. Et là, ma mère et moi, nous allons vivre un moment historique, c'est-à-dire que l'URSS envoie une femme seule dans l'espace, Valentina Tereshkova. C'est un événement que l'on n'imagine pas pour les générations d'aujourd'hui. Mais l'année précédente, le premier homme a tourné autour de la Terre, c'est Yuri Gagarin, et un an plus tard, c'est une femme seule. On n'imagine pas parce qu'il n'y a jamais eu quasiment de femme seule encore aujourd'hui qui était dans l'espace. Donc c'était véritablement un événement historique. Et ça a été une inspiration pour nous deux, puisque la veille au soir de sa mort, ma mère m'a dit à dîner... C'était en 2004, elle m'a dit « Ah, moi je ne suis pas sûre, je pense que je ne verrai pas de femme marcher sur la Lune. Mais toi, tu verras peut-être un jour une femme marcher sur la Lune. » Alors j'attends ce moment-là. C'est pour vous dire l'inspiration que représentaient les personnages, parce que, vous savez, mis à part Jeanne d'Arc et Marie Curie et Simone de Beauvoir, il n'y avait pas beaucoup d'images féminines inspirantes pour les jeunes filles. Et là est arrivée Valentina Tereshkova.
Et c'est cette année-là, justement, que vous décidez avec votre mère de passer l'été de l'autre côté. Donc, vous faites un tour
en fait,
RSS.
Je savais que mes parents sérieux, qui voulaient vraiment me donner une belle éducation, et je leur suis infiniment reconnaissante. Je savais que mes parents voudraient que j'aille apprendre le russe sur place, que c'était la seule manière d'apprendre une langue et de comprendre la culture. Mais quand même, ils avaient peur d'envoyer leur fille unique à 14 ans en URSS, où ils n'auraient pas pu aller.
Ce qu'on n'a pas dit dans la première émission, et que peut-être il faut préciser pour nos auditeurs et nos auditrices, Claudine Monteil, c'est qu'ils n'étaient pas communistes, vos parents.
Non, mes parents n'étaient pas du tout.
Quand on dit qu'il y avait des mathématiciens soviétiques qui venaient à la maison, ce n'étaient pas des mathématiciens qui étaient inféodés au stalinisme.
Non, mes parents n'étaient pas très anticommunistes. Ils étaient pour la liberté, quelle qu'elle soit. Mais ils étaient pour la liberté de penser, la liberté de circuler. Et ils n'étaient pas communistes.
Donc, ils vous permettent d'aller, et d'ailleurs vous partez avec votre mère.
Hein, alors, je pars avec ma mère parce que la première fois, ma mère a quand même un peu peur. Elle veut quand même savoir où elle envoie sa fille. Tous les deux veulent le savoir. Mais à partir de l'année suivante, je vais me rendre seule dans des groupes. Attention, ce sont des groupes de lycéens français organisés.
Des programmes d'échange scolaire.
Programmes d'échange scolaire, c'est tout à fait encadré.
Vous pouviez aller en URSS alors que vous étiez allée aux États-Unis avant ?
Il semblerait que j'ai eu deux passeports à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'adolescentes, mais j'ai cru comprendre que j'avais deux passeports.
Bon, déjà diplomate. Si mes souvenirs déjà sont... diplomate.
Oui, oui, je comprends.
Avec un passeport officiel, disons, qui pouvait passer. Racontez-nous, Claudine Monteil, cette fois justement où, à 17 ans, vous avez été arrêtée à Leningrad. Oui. Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg, hein. Mais c'est, je crois, votre premier haut fait diplomatique.
La première chose qu'on apprenait quand on était en URSS, c'était le mot « nielzia ». « Nielzia », ça veut dire « c'est interdit ». Parce que les babouchkas, les grands-mères soviétiques qui jouaient à la police politique civile, n'arrêtaient pas de vous dire dans la rue « ça c'est interdit, nielzia bon. ». Donc, nous montons dans un bâtiment, un très beau bâtiment, parce que c'est une visite de musée et il y a une grande terrasse. Et cette amie qui était avec moi, qui avait 17 ans, qui était aussi innocente que moi, elle veut prendre des photos sur les coupoles de Saint-Pétersbourg. Et arrive une vieille dame qui lui dit « Nielzia, c'est interdit ». Et elle dit « J'en ai rien à faire, je veux mes photos » et elle prend ses photos. Et je lui dis « Arrête !» Elle continue. Ce qui fait que quand nous redescendons du bâtiment, nous sommes arrêtés immédiatement, nous sommes entourés par la police, parce que effectivement, en URSS, à l'époque, vous ne pouviez prendre aucune photo, parce que tout était militaire. Tout était considéré comme militaire et on ne savait pas à qui vous alliez donner cette photo en rentrant dans les pays occidentaux. Donc on se retrouve entouré par des jeunes policiers qui, par chance, ils avaient quoi ? Ils avaient 22, 23, 24 ans, ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que nous. Et j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, « Tais-toi, je vais négocier. » Et là, j'ai fait un discours diplomatique, le premier. J'ai dit « Camarades policiers, nous apprenons le russe parce que nous sommes grands admiratrices de Lénine, de la Révolution d'octobre. » Et je leur ai fait un discours hypocrite, parfait. On était encore plus communistes qu'eux. « Camarades, c'est un immense honneur pour nous d'être là. » C'était uniquement pour ça qu'elle a voulu photographier. Et donc, ils ont obtenu la pellicule. Deux photos, et nous sommes ressortis, mais ce qui était très très drôle, c'était les babouchkas, les vieilles dames russes qui avaient une mentalité de délatrice et qui ont attrapé et grondé tous les policiers en leur disant « mais non, c'est des ennemis, etc. » J'ai dit « camarade !» et j'ai continué, voilà. C'est ainsi que ma carrière diplomatique
a commencé. A commencé. Et vos talents oratoires vous ont poursuivi ensuite jusqu'au Quai d'Orsay. Vous êtes entrée, Claudine Monteil, en 1979, en charge des échanges scientifiques et techniques avec les pays sous joug soviétique. Donc vous étiez vraiment là, la grande spécialiste de la guerre froide. Vous saviez à qui vous aviez affaire puisque vous avez
alors,
connu
la grande spécialiste, en tout cas, je savais à qui j'avais affaire. Et j'étais quand même avec cet idéal. Je m'étais battue pour la liberté des femmes des années auparavant, avec Simone de Beauvoir. J'étais habituée à me battre. Je veux dire par là que le mouvement féministe français, ça a été quand même des engagements sérieux. Ça a l'air comme ça, ça te passait en une journée, mais non.
Non.
Et donc...
Et on va en parler.
Et la liberté, d'autre part, il y avait des mathématiciens. Mon père avait été au congrès de Nice, au congrès international de Nice, où l'un des Medaifields était un soviétique qui n'a pas pu venir. Et l'argument qu'avait donné l'ambassade d'URSS à mon père, c'était qu'il buvait trop. Ce qui, quand on sait comment les soviétiques buvaient à l'époque, n'était pas vraiment une exception. Donc il n'a pas pu venir. Et mon père a fait naturellement une déclaration au congrès international de Nice qui n'a pas plu aux autorités soviétiques, parce qu'il a dit la vérité, qu'on empêchait ce mathématicien de venir recevoir la médaille Fields. Alors tout cela faisait que j'avais quand même entendu beaucoup de choses pour défendre les libertés. Donc quand je me retrouve dans ces fonctions, je n'ai pas envie de lâcher. Je suis très ferme, je débarque. Et comme je suis jeune femme et toute jeune, enfin je veux dire j'arrive dans la diplomatie, j'ai 29 ans ou 28 ans, c'est moi qui, la nuit, dois relire les procès-verbaux qui vont être signés par l'ambassadeur le lendemain. Et je dois relire face à l'Allemand de l'Est, aux Bulgares, etc. Et naturellement, j'ai à côté de moi un interprète pour vérifier quand même l'écriture en bulgare ou en allemand. Et naturellement, ils se sont amusés à modifier les textes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord dans la journée. Ce qui fait que je passe la nuit à obliger que l'on remette le texte qui avait été accordé. Et naturellement, comme je suis jeune et femme, on me menace. On dit « vous êtes très agressive ». Et donc, nous allons, notre ambassadeur appellera votre ministre à Paris et vous serez limogé de votre poste. Et moi, je continue à être ferme.
Claudine Montaigne, si on continue sur ces années de formation, là vous venez de parler des débuts, donc à 28-29 ans, mais entre 65 et 79 déjà, avec ces voyages en Union soviétique, avec l'expérience de la dissidence que vous a permis de connaître votre père, recevant aussi des mathématiciens dissidents chez vous et en France, vous n'avez jamais été tenté par le communisme, vous, mais est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez vu de la vie des Russes et des Soviétiques de l'époque?
Alors justement, je parlais toujours beaucoup avec les femmes en russe, donc ça facilitait quand même. Et surtout quand on faisait des visites d'usine, plutôt que de faire toute la visite d'usine, moi j'allais bavarder avec des femmes ouvrières à la chaîne et tout. Bon, je savais comment leur parler. Alors, j'ai constaté, alors que les États-Unis avançaient, s'enrichissaient, que la vie était plus facile aux États-Unis, même si la guerre du Vietnam, quand même, a tout bouleversé, je constatais un effondrement chaque année en URSS et une situation pour les femmes épouvantable. On ne trouvait rien, on ne trouvait pas de dentifrice, on ne trouvait pas de savon, on ne trouvait pas de brosse à dents. Les femmes vivaient dans des conditions épouvantables. Elles faisaient des queues, vous savez, il y avait des queues terribles pour obtenir un morceau de saucisson ou un morceau de, ou un fruit. Enfin, c'était des conditions de guerre. C'était des conditions de guerre. Et en même temps, ce qui me révoltait, c'était l'injustice. Parce que quand on était de la nomenclatura, c'est-à-dire de la bourgeoisie communiste, c'est-à-dire appartenant au parti, on avait le droit d'aller dans des magasins où eux, il y avait tout, mais où on payait en devises étrangères. C'est-à-dire que c'était véritablement une caste, la caste du Parti communiste, et le peuple qui, lui, vivait dans des conditions effroyables. Et ça, pour la jeune fille que j'étais, idéaliste, c'était bouleversant. Parce que finalement, je me disais, ils se disent communistes, ils disent qu'ils soutiennent le peuple, mais en réalité, ils les oppriment plus encore. Voilà, c'était ça que je ressentais. En même temps, j'avais l'impression que les femmes russes étaient, soviétiques étaient très fières de leurs conditions de femmes, alors que, par exemple, les femmes médecins, c'était des médecins, les médecins étaient des femmes en URSS. Pourquoi? Très simplement, parce que le métier de médecin n'était pas plus valorisé que celui de femme de ménage. Donc, ça n'était pas un métier qui avait la même visibilité, le même respect que dans les pays occidentaux. Et par ailleurs, il n'y avait quasiment pas de médicaments, sauf pour les hôpitaux réservés à la bourgeoisie communiste, membre du Parti communiste, c'est-à-dire la nomenclatura. Donc pour moi, c'était le système le pire. C'était le système de pire alors que j'avais été prête à lui donner plus de respect et que Valentina Tereshkova, elle restait pour moi quand même une icône. Mais si je peux me permettre, ma génération quand même, c'est ce qui explique, de par mon parcours, qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, je deviens maoïste.
C'est ce que j'ai... On est quand même à l'époque des grandes idéologies. Donc, alors, oui, oui. Vous n'avez pas adoré le monde américain. Vous êtes aussi à cette époque-là traumatisé par la guerre du Vietnam.
Oui,
donc contre l'impérialisme. De l'autre côté, le monde soviétique, c'est un échec. Bah, reste.
Reste la Chine. Et il reste la Chine en plein début de révolution culturelle quand mon père m'explique que les mathématiciens chinois sont soit envoyés au champ, soit leurs bibliothèques sont brûlées, et qu'il me raconte que l'un des grands mathématiciens chinois de l'époque, il va voir discrètement un très vieux mathématicien mandarin qui était tellement vieux que les gardes rouges n'ont pas osé l'attaquer, et qui lui demande par cœur ce dont il se souvient de tel théorème. Donc c'est quand même une période absolument effroyable de la Chine. Et mon père voit sa fille recevoir Pékin Information chaque semaine, où c'est le petit livre rouge pendant tout le texte, et même un jour arrive un gros paquet de Chine, et mon père va à la porte le chercher, parce qu'il est sûr que c'est pour lui, bien sûr, que c'est des mathématiciens qui lui écrivent, et je lui dis « Non, papa, je pense que c'est pour moi ». Il me regarde un peu scandalisé, dans le genre, enfin... Et il découvre que c'est pour moi, en effet, parce que j'avais écrit à Pékin Information à Pékin, j'avais trouvé l'adresse dans Pékin Information, que je n'arrivais pas à trouver les poèmes en français du président Mao à Paris. Où pourrais-je les trouver? Ben, résultat, la propagande, ils m'ont envoyé des tomes, des poèmes du président Mao en français. Donc j'étais très fière, c'était mon premier courrier de Chine, pendant que les pauvres gens étaient en train de tout perdre dans le pays.
Et évidemment, vous avez fait du chinois au lycée.
Alors j'ai fait du chinois au lycée en classe facultative pendant 2 ans. Il ne m'en reste pas grand-chose. Mais j'ai fait du chinois facultatif avec un chinois anti-communiste et qui n'arrêtait pas de me dire « Pourquoi voulez-vous apprendre le chinois ?»
Quand est-ce que cet attrait pour le maoïsme vous a quitté, Claudine Monteil?
Alors, cet attrait pour le maoïsme ne m'a quitté qu'un an après mai 68, ou 2 ans même après mai 68, parce que les Mao, les hommes Mao du groupe, étaient tous plus machos les uns que les autres. C'était vraiment macho Mao. Et qu'ils n'avaient pas vécu aux États-Unis, ne connaissaient pas l'URSS, mais que quand je voulais intervenir dans une réunion, dire un mot, une phrase... Mais tais-toi, tu peux pas comprendre, mais tais-toi. Bon, et en fait, si le mouvement post-étudiant 68 s'est effondré, c'est parce que tous ces jeunes hommes étaient des petits machos et que nous, les femmes engagées politiquement, jeunes ou moins jeunes, nous sommes toutes parties. Et c'est comme ça qu'on arrive au mouvement de libération des femmes. Et en fait, ces messieurs, parce que moi quand même, je renais à Hôtel et Trac de la nuit, j'allais le matin très tôt devant les usines pour les distribuer, pendant que ces messieurs réfléchissaient à la révolution en dormant la nuit. Nous, on n'avait pas le temps. Donc au bout d'un moment quand même, on en a eu un peu assez.
C'est quand même à cette époque aussi que vous rencontrez Sartre, une première
Alors oui,
fois.
Je rencontre Sartre dans le mouvement Mao. Mais Sartre est à peu près le seul non-macho de toute la bande. Et il est très gentil, et puis c'est l'icône hein, quand même. Je veux dire. Alors évidemment, Sartre était tout petit. Donc il était il était plus petit que moi. Je suis petite, mais il était plus petit que moi. Et on croit que Simone de Beauvoir était grande parce qu'on la voit toujours à côté de Sartre. Mais en fait, Simone de Beauvoir et moi, nous étions de la même taille. C'est pour vous dire que donc il rassurait, il était petit, il était un peu enveloppé à l'époque. Donc c'était un peu un grand-père. Enfin, je veux dire, nous avions, Sartre et moi, 45 ans de différents âges quand même. Hein. Je suis une gamine, enfin je veux dire, je suis une très jeune femme. Mais ça a été une période, mais c'est Sartre qui m'a fait rencontrer Simone de Beauvoir.
Claudine Monteil, pour boucler la boucle de cette époque et des États-Unis et du monde soviétique, vous partez un an aux États-Unis après 68, et vous y rencontrez, vous y faites une drôle de rencontre, vous y rencontrez la fille de Staline, Svetlana. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances ?
Bien, c'est le monde mathématique des mathématiciens qui réapparaît à Princeton régulièrement parce que j'étais très liée depuis ma petite enfance à un très grand mathématicien suisse, américain, Armand Borel, et à sa femme, Gaby Borel, qui me recevait comme une nièce, une fille de la maison. Et il faut dire que quand Svetlana Staline, donc Svetlana Alilouyeva, décide de passer à l'Ouest, elle est d'abord exfiltrée en Suisse, où elle voit l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, George Kennan, qui est professeur à Princeton. Et donc, les États-Unis décident de la recevoir à Princeton. Elle vient quand même d'abandonner ses trois enfants. Je le dis parce que pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Comment une mère peut abandonner ses trois enfants quand on est la fille de Staline et qu'on a quand même tout ce que l'on veut à disposition en URSS. Et donc, c'est le milieu mathématique qui va l'accueillir. Et c'est en particulier Armand Borel et son épouse Gaby Borel qui vont organiser en permanence des rencontres, des visites, des amitiés. Ce qui fait qu'ainsi, un jour de... Enfin, pas de Noël ou près de Noël, en décembre, elle m'a dit « Je vais chez Svetlana ce soir, est-ce que tu veux m'accompagner ? Nous allons y aller. » J'ai donc été, à 19 ans, j'ai donc été face à la fille de Staline, comme je vous vois, avec un sentiment très, très mitigé, parce que quand même, elle avait abandonné ses enfants. Et je me disais « Mais je ne pardonnerai jamais à ma mère ». Et je l'ai vue comme je vous vois, et en fait elle était dans un état de solitude épouvantable, à telle enseigne que le soir du Nouvel An, elle a appelé sur le bouton, elle avait un bouton qui la reliait directement à la police de Princeton, elle a appelé sur le bouton en urgence, la police a débarqué immédiatement et encerclé sa maison avec des fusils, et elle est sortie avec une bouteille de champagne en disant « je voulais juste vous souhaiter la bonne année ». Et ils ont dit « Madame, merci, mais nous sommes en service », et ils sont repartis. Aussi vite qu'ils étaient venus, elle a erré de lieu en lieu, elle est retournée en URSS, elle a eu un enfant d'un Américain qui l'a ruinée. Et enfin, surtout, elle est revenue, parce que les Russes ont essayé de l'attirer pour qu'elle revoie ses enfants, mais une fois qu'elle était là-bas, ses enfants n'ont pas voulu la revoir. Donc elle est repartie ensuite aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, c'est quand même toute l'histoire de l'Union soviétique et des États-Unis. Elle a eu quand même beaucoup de chance d'être la fille de Staline pour qu'on accepte qu'elle reparte en URSS, puis que les Américains l'acceptent de nouveau. Alors que quand elle est repartie en URSS, elle a fait une conférence de presse en disant finalement les États-Unis, c'est un pays épouvantable, ce sont des affreux capitalistes. C'est-à-dire qu'elle a trahi en permanence. Et c'est une expérience qui m'a rendue très triste.
Toutes ces expériences, des expériences humaines, des rencontres, des voyages, des hauts faits diplomatiques avant l'âge de 20 ans, Claudine Monteil, plus la formation idéologique, intellectuelle, ont fait que vous avez donc choisi la voie diplomatique, que vous êtes entrée au Quai d'Orsay en 1979 et que, vous le disiez dans la première émission, vous avez toujours été portée par cette défense des libertés et cet idéal de justice qui ne vous a jamais quitté, aussi bien quand vous étiez au ministère de la Coopération, où vous êtes occupée des relations avec les pays africains, qu'ensuite, quand vous avez continué jusqu'à peut-être un moment qui a été très important, je crois, pour vous, qui est un moment où vous étiez au ministère des Affaires étrangères, et qu'avec l'association de Daniel Mitterrand, alors là on est plus tard, hein, on est dans les années 80-90, avec l'association France Liberté, vous alliez voir en Afrique du Sud comment vivaient les Sud-Africains dans les townships, et ce que vous avez rapporté jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Grand moment de votre carrière diplomatique, je crois.
L'expérience de l'Afrique du Sud, c'est une expérience d'abord, que je voudrais rendre hommage aux hommes et aux femmes qui sont coopérants et qui partent dans ces pays-là avec l'idée de servir, de coopérer précisément, non pas de manière donneur de leçons du tout, mais au contraire simplement d'aider. Je veux donner le premier exemple, parce que c'est lié à l'Afrique du Sud, et c'est comme ça que j'ai pu aller dans les townships. C'est l'histoire des médecins que nous avions l'habitude d'envoyer, qui ne travaillaient que dans les townships avec les hommes et les femmes de couleur, noirs, mais surtout noirs, parce que c'était la pire des répressions. Donc ils travaillaient avec eux, ils étaient souvent arrêtés par la police sud-africaine, y compris dans les églises. C'est-à-dire que quand il y avait des messes, parfois la police sud-africaine arrivait à motard et commençait à taper sur les Noirs, arrêtait les médecins qui les aidaient et les tabassait. Enfin, c'était épouvantable. Et quand je disais à ces médecins avant qu'ils ne partent qu'ils risquaient d'être torturés ou d'avoir en tout cas des moments parfaitement désagréables, ils me répondaient « Ne vous inquiétez pas, madame, nous étions avant en Afghanistan sous les bombes napalm soviétiques et nous opérions sous les bombes soviétiques en Afghanistan. Alors, vous inquiétez pas, quelques Sud-Africains, on va s'y habituer. » C'est ainsi que je suis allée dans les townships pour rendre compte, parce que Danielle Mitterrand, épouse du président François Mitterrand, avait monté une association France Liberté, avec un très beau titre, Liberté, avec, si mes souvenirs sont exacts, avec un S, et je vais dans les townships pour voir tous les programmes qu'elle avait soutenus, en particulier dans les églises, parce que beaucoup de choses passaient par les églises pour pouvoir être tolérées, acceptées. Il fallait être accepté de la population noire, ce qui n'était pas évident, parce qu'ils se méfiaient des Blancs. Et ils avaient leur raison de se méfier des Blancs. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait, par exemple, qu'à côté du Cap, il y a un bidonville sur la plage. Eh bien, m'expliquaient nos coopérants qu'en réalité, la location, les Noirs devaient louer ce brin de terre, et le prix de la location était plus cher que dans les quartiers blancs du Cap où il y avait de l'électricité, de l'eau, où il n'y avait rien. Et qu'en plus, il y a beaucoup de vent dans la région du Cap, ce qui fait que tous les Noirs, tous les Sud-Africains qui habitaient dans ces bidonvilles avaient tous des problèmes pulmonaires dès l'âge de 20 ans parce qu'ils avalaient du sable et qu'ils ne pouvaient pas se soigner. Alors, suite à mes différentes missions en Afrique du Sud, Danielle Mitterrand a reçu mon rapport, l'un de mes rapports, qui était presque un livre, enfin, je veux dire, sur l'Afrique du Sud, et elle a souhaité me rencontrer. Et quand Nelson Mandela a choisi de venir pour le premier en France en sortant de prison d'Afrique du Sud, eh bien, le Quai d'Orsay m'a appelé et m'a dit « Vous avez été choisi par l'Élysée pour accompagner Madame Mitterrand » qui va aller accueillir Nelson Mandela, qui vient d'être libéré. Ça a donc été un moment, j'ai accompagné, enfin j'ai été dans les différents événements pendant 2 jours, et j'ai trouvé un homme qui quand même sortait de 30 ans de prison dans des conditions effroyables, et j'ai trouvé un homme rayonnant, serein. C'était un moment extraordinaire, et Danielle Mitterrand était très émue, et moi-même à ses côtés également, mais c'était un moment... C'était un grand moment.
Merci Claudine Monteil. On se retrouve demain soir.
Avec plaisir.
Et nous parlerons de la grande rencontre de votre vie. Simone de Beauvoir et Hélène, sa sœur. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Julien Girard, réalisation Séverine Cassard. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.